Bonjour, voilà, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la semaine où l'on lit la paracha Rukat. Dans cette paracha, il y a beaucoup de sujets importants qui auraient justifié qu'on les développe, ou bien qui auraient justifié que la Haftara soit en relation avec un de ces sujets. On a l'épisode de la vache rousse. On a l'épisode du rocher frappé par Moshé pour en faire sortir de l'eau. On a le sujet du serpent d'airain, une chose assez étrange a priori. Un autre sujet important dans cette paracha, c'est la mort de Myriam et celle d'Aaron à Cohen. Tous ces sujets sont liés à des fautes des Hébreux. Et aussi, c'est ainsi que nos maîtres ont préféré, pour la Haftara, choisir une coloration inverse, un succès, le succès du Sufet Yiftach. Bon, le Sufet Yiftach, c'est-à-dire que l'on traduit ça d'habitude, Sufet, on traduit ça par juge. En fait, c'est autant juge que Hannibal ou Hamilcar, qui était Sufet à Carthage. C'était des sémites aussi. Et donc, suffète, cela ne veut pas seulement dire juge au sens de juge de paix, par exemple, mais cela veut dire juge au sens de à la fois chef politique et chef militaire. Et donc, Yiftar avait été choisi pour être le chef du peuple. Alors, on se retrouve avec un lien, tout de même, bien entendu, avec l'un des sujets développés dans cette paracha. Un des sujets, celui de l'approche des Bnei Israël de la terre de Canaan, et pour y entrer, il fallait passer par les territoires des peuples d'Édom, de Moab, et également donc des Amorites. Il fallait traverser ces territoires. Ils ont pensé, Moshe a pensé, demander à Édom de le laisser passer. Et Édom l'a refusé. Il n'a pas pu passer sur le territoire de Sihon et les Hébreux ont conquis le territoire de Sihon. Et donc la Haftara va nous parler d'événements parallèles qui se sont produits à peu près 300 ans plus tard. Le héros de ces événements, c'est le prophète Yiftach, Jephté, comme on le dit en français. Donc, on a d'une part le texte de l'entrée, de la volonté d'entrer en Eretz Israël, en Canaan à l'époque, ce qui n'a pas été possible, à cause des peuples de la région qui n'ont pas voulu qu'on traverse leur territoire. Et dans cette Haftara, la Haftara de la Parasha Rukat, eh bien, on va voir que le suffète, le chef militaire Yiftach, va combattre contre un de ces peuples qui voulait lui barrer la route. Qui, en fait, Israël était déjà sur sa terre, mais cet autre peuple faisait des raids pour attaquer Israël. Donc, la Haftara nous apporte de plus une information que nous n'avions pas dans la Torah. Parce que dans la Torah, on sait que les Hébreux ont demandé à Édom de traverser leur territoire. Ça, on le sait, c'est très clair dans le livre de Bamidbar. Mais ce que l'on ne sait pas et qu'on apprend avec la Haftara, c'est que les Hébreux ont aussi tenté d'obtenir la même permission pour traverser le royaume de Moab. Et Moab a également refusé. C'est une information intéressante, nouvelle en tout cas, que nous apporte le texte des prophètes. Dans la Haftara, comme dans la Parasha, on trouve plusieurs sujets, les erreurs, des sujets proches, hein, les erreurs sont commises par les chefs de la génération. Dans la paracha, Moshe a frappé le rocher. Et Yiftar, lui, sa faute a été de faire un vœu imprécis dont les conséquences vont être tout à fait dramatiques, parce qu'il a refusé de corriger son erreur. Il a, en deux mots, on reviendra plus tard sur cela, après avoir fait un vœu dramatique, il a pas, oh, il est possible d'annuler des vœux, mais il n'a pas voulu par orgueil. Lui, c'était le chef du peuple, le Kohen Gadol était le chef spirituel, et il a estimé que ce n'était pas à lui à demander que l'on modifie ceci ou cela. Alors, l'histoire de Yiftar, c'est tout un récit, un de ces récits bibliques très intéressants. Et il se trouve que, à la mort de son père, il a été chassé par ses demi-frères, sous prétexte que c'était un enfant illégitime. En fait, sa mère était même qualifiée de femme de mauvaise vie par le texte, qui au sens littéral, le mot zona, signifie femme de mauvaise vie. Mais en même temps, le texte mentionne une lignée paternelle sans la moindre restriction. On nous dit bien, qui est Yiftar? Le texte nous dit, ve Yiftar à Gilhadi, à Gilhadi, c'est-à-dire le Gilhadéen, si on veut. Gilhad, c'est une région. Mais on pourrait dire c'est celui de cette région. Mais le fait qu'il est écrit à Gilhadi, cela nous dit aussi que il est le fils de Gilhad. Et Gilhad, c'était son père. Donc, on voit ici une indication comme quoi le texte ne dit pas que Gilgad a été le fils d'une femme de mauvaise vie qui n'avait rien à voir avec Gilhad. Non, on nous dit clairement, comme s'il était écrit Gilhad enfanta Yiftar, on nous dit à Gilhadi. Comment pourrait-on affirmer cela? Comment pourrait-on affirmer que ces lettres et Yod témoignent du fait que Yiftar était bien le fils de Gilhad, si sa mère n'avait pas été convenable? Une explication est donnée par nos maîtres. En fait, cette femme n'avait pas bénéficié de la cérémonie de mariage que l'on appelle Kiddushin. Et donc, elle n'avait pas reçu un contrat de mariage, le fameux contrat Ketouba. Ceci étant, dans le Talmud Kiddushin, tout au début, on nous explique qu'il y a plusieurs manières d'être considérée comme mari et femme. Mais il en manquait, il manquait la Ketouba. Et donc, sans Ketouba, la femme avait eu en quelque sorte un simple statut de concubine, bien que, en fait, il est considéré comme un fils d'une femme mariée. Mais par contre, ses frères, ses demi-frères, lui ont dit, tu n'hériteras pas de la maison de notre père. Pour éviter un problème, il a lâché prise, il est parti. Il est parti habiter à distance dans un pays situé, dans une région située au sud-est de la Syrie actuelle, que la Bible appelle le pays de Tov. Et ses demi-frères l'ont tout simplement volé. Ils lui ont spolié son héritage et personne n'est intervenu pour le défendre, car il aurait pu être défendu. C'était un fils légitime. Mais personne n'est intervenu. Les demi-frères ont décidé qu'ils n'hériteraient pas. Et lui n'a pas voulu créer des histoires en plus. Il est parti, tout simplement. Il est parti chercher la paix ailleurs, témoignant en même temps de la qualité de son âme. Il aurait pu être très, très, très dur. Il ne l'a pas fait. Mais qu'a-t-il fait? Il a réuni des gens autour de lui, un groupe armé en fait, et Ils étaient considérés comme hommes de rien, encore que la Bible parle au contraire de Gibor Haïl, c'est-à-dire des courageux guerriers. Et donc, il était entouré de guerriers, et les Ammonites, il se trouve que sur ces entrefaites, les Ammonites, qui est donc un peuple voisin, issu de Lot comme Moab, eh bien, les Ammonites ont fait la guerre à Israël. Et suite à ces raids, les anciens de la région de Galaad se sont rendus dans le pays de Tov, donc au nord, hein, en Syrie. Et le Galaad, c'est le nord-est de la Jordanie, à peu près. Donc, ils n'ont pas été très très loin, le sud-ouest de la. Nord-ouest de la Jordanie, donc sud-ouest de la Syrie, pays de Tov. Ils ont été voir Iftar et ils lui ont dit, écoute, toi tu as une troupe, tu es un guerrier, tu sais te battre, nous on ne sait pas trop, eh bien, utilise l'expérience que tu as dans les combats pour nous aider, car les Ammonites sont en train de nous attaquer. Bon, ça fait un peu bizarre déjà, hein. Il se retrouve avec une demande de ceux qui ne l'ont pas défendu, alors qu'il a été volé. Mais bon, Iftar, bon prince, a accepté avec tout de même un certain nombre de conditions. Et une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire les conditions pour pouvoir effectivement faire ce travail qu'on lui confiait, il a agi avec une très grande sagesse. Voyons la situation. Un peuple voisin attaque Israël. Que fait-il? Au lieu de répondre immédiatement en attaquant ce peuple, il tente de négocier. Il a cherché à faire comprendre que les Ammonites n'avaient pas été volés par Israël. Parce que les Ammonites disaient, on se bat contre Israël pour leur reprendre le Gilead, car le Gilead était une région des fils d'Ammon. Et Iphtar a été leur dire, mais attendez, vous faites erreur. C'était à vous dans un passé lointain, mais ce n'est pas à vous que nous avons pris cette terre. Cette terre, vous avez été enlevée par d'autres, par des Cananéens. Et donc c'est à eux que c'est des Amorites que nous avons combattus. Ce n'est pas vous, c'est aux Amorites que nous avons pris cette région. Et donc je ne comprends pas pourquoi vous venez nous chercher des noises, comme on dit, pour nous combattre alors que nous ne vous avons pas enlevé cette terre. Eh bien, cette tentative de négociation n'a absolument pas abouti. Parce que même si Iftar a essayé d'expliquer que les Hébreux n'ont pas dépossédé les Ammonites des territoires qu'ils revendiquaient, même si la guerre a eu lieu contre Sihon, roi des Amoréens, des Amorites, et non pas des Ammonites, ça ressemble, hein, mais ce n'est pas le même mot. Ammon, c'est le frère de Moab. Alors que les Amorites, ou bien les Amoréens, les Hémorites ou les Amoréens, c'est un peuple cananéen qui n'a rien à voir, puisque Moab descend de Lot, donc descend de Térakh, descend de, pas de Térakh, mais de la famille de Térakh, c'est-à-dire de la famille d'Abraham. Mais donc le roi d'Ammon n'a rien voulu entendre à ces vérités historiques et il a choisi d'engager le combat. Donc, il y a eu un combat. Iftar a gagné. Et après cette grande défaite, le texte nous dit qu'il a conquis 20 villes en plus chez ceux qui l'attaquaient, qui prétendaient prendre les terres d'Israël, îles de Gilead. Eh bien, il les a vaincus et il leur a pris 20 villes, c'est-à-dire une grande région. Voilà pour l'épisode historique, hein. Alors, qu'est-ce que l'on apprend de tout cela au niveau de la, disons, l'Haftara? Vous savez, l'Haftara et tous les textes des prophètes ne sont écrits que pour nous, pour les époques futures. Ce n'est pas des textes historiques qui datent de leur temps. Certes, ça parle du temps en question, mais il y a eu quantité de prophètes dont les prophéties n'ont pas été rapportées par écrit. Et là, ça nous apprend quoi? Eh bien, ça nous apprend d'abord que les parents doivent créer les conditions pour que les enfants se développent de la manière la meilleure possible. Première condition, le choix du conjoint, évidemment. Or, évidemment, on le voit ici, le père de Yiftra n'a pas trop bien choisi. Il n'a pas choisi une mère honorable, puisque elle n'a pas exigé sa Ketouba. De plus, il faut que l'on fasse régner une sérénité au sein du foyer. Or, dans le foyer du père de Yiftar, c'était une hostilité déclarée entre les demi-frères légitimes et Yiftar, au point qu'il est parti et qu'il a été chassé et laissé sans ressources. Les psychologues et les psychanalystes insistent sur le fait qu'une enfance difficile laisse des traces, parfois, hélas, indélébiles, sur l'évolution de l'enfant. Or, enfant, adolescent, chassé de la maison familiale, Iftar n'a pas eu la force mentale de défendre ses droits. Il a quitté sa ville, son village, je l'ai dit, il est parti, son éducation en a pâti, et il n'a jamais appris les règles halakhiques sur les vœux, notamment. Ce qui lui aurait évité ce que l'on va voir tout à l'heure, de parler en disant n'importe quoi et d'attirer du malheur sur sa famille. Donc, ce que nous apprend aussi cette haftara, c'est ne pas formuler des vœux de manière inconsidérée. La parole, c'est important. D'abord, c'est une parole, mais c'est aussi une chose. En hébreu, ce sont les mêmes lettres, c'est le même mot. La parole, ce n'est pas du vent, c'est consistant, c'est de la matière. Et donc, les vœux, on n'est pas obligé de les formuler, de dire, ah, s'il m'arrive ceci, je fais cela, je fais cela, je m'engage à. Ah, on ne nous demande pas ça, on ne nous demande que la halakha. Eh bien, en fait, c'est une chose que nous apprend cette haftara, ne pas parler inconsidérément, considérément, ne pas s'engager à ce dont on n'est pas obligé. Si Yiftar avait étudié la Torah, et notamment la Halakha à propos des vœux, il n'aurait pas agi comme il a fait. Or, qu'a-t-il fait? Eh bien, devant partir au combat, les négociations étant terminées, devant partir au combat contre donc ce peuple voisin, les fils d'Ammon, eh bien, il a eu une parole inconsidérée et il a fait un vœu à Hachem, disant, si tu me fais gagner, eh bien, je t'offrirai un sacrifice. Mais pas un sacrifice, quel sacrifice? La première personne qui sortira de chez moi, le premier être vivant qui sortira de chez moi. Je n'ai pas les termes exacts, mais c'est ça l'idée, hein. Or, quand il est revenu tout heureux du combat, qui est sorti de la maison? Sa fille, heureuse de le revoir vivant après le combat, et lui était catastrophé, il a déchiré ses vêtements, je crois, il s'est rendu compte de l'énormité de ce qu'il avait fait. Et elle, obéissante à son père, elle lui dit, d'accord, donne-moi 2 mois pour que je pleure. Et elle l'a obéi, elle a été sacrifiée. C'est une erreur majeure, parce que on n'a aucun besoin de, il n'avait aucun besoin de d'obéir à un vœu. Imaginez quelqu'un qui dit, par exemple, bon, je vais passer un examen, il dit, ah mon Dieu, si je gagne cet examen, si je le réussis, eh bien, j'irai manger un repas non cachère. C'est une bêtise. C'est une bêtise absolue. Pourquoi? Parce que c'est interdit, mais aussi parce que on ne peut pas promettre en vœu une chose interdite. Or, c'est totalement interdit de tuer une jeune fille ou quiconque. dans un cas pareil. Et donc, il ne savait pas, mais comme je l'ai dit, ces circonstances familiales font qu'il n'a pas appris. Il faut apprendre pour savoir comment se diriger. D'où l'importance de lire, d'étudier, d'écouter des maîtres de halakha qui nous expliquent la règle. Eh bien, il a fait tout simplement une erreur majeure qu'il a redoublée avec une autre erreur majeure, qui est de ne pas chercher auprès des maîtres comment annuler cette bêtise. On lui aurait dit, il existe un procédé qui s'appelle Atarat Nedarim, qui consiste à dire, ben voilà, j'ai ma parole a parlé plus vite que ma tête, j'ai dit des bêtises, je voudrais annuler ce vœu que je ne pourrais pas respecter, et bon, ben, il y a une procédure et il en serait défait de ce vœu. Il aurait pu aussi aller voir le grand prêtre. Le grand prêtre, c'était Pinhas à l'époque. Et il n'a pas été le voir. Bon, il y a eu une double erreur. Il y a eu son erreur à lui et l'erreur de Pinhas. Parce que lui s'est dit, je suis comme le roi, et donc c'est pas à moi d'aller. Et l'autre, Pinhas, qui est quelqu'un qui avait... N'oublions pas que nous sommes à peu près 300 ans après l'entrée en terre d'Israël. Donc 300 ans après Moshe. D'accord? On est dans l'époque des juges. En époque des juges. Les juges, c'était entre 250 et 300. Hein, je n'ai pas exactement le... Mais c'est de cet ordre-là, c'est énorme. Or, on est en train de nous dire que Pinhas était là, était en fonction comme grand prêtre. Et de fait, il est reconnu, nos maîtres nous expliquent que Pinhas a vécu très 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 longtemps. C'était, on le sait, on le voit dans... agir dans les parachas de la Torah aux côtés de Moshe. Donc ça se passait des centaines d'années auparavant. Alors voilà ce qu'on voit à ce niveau, c'est qu'il faut éviter de dire n'importe quoi. Bien sûr, on n'est pas obligé de s'engager avec des vœux. Il y a d'autres manières de montrer sa foi.